L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anthony Lefebvre, animateur de Zone de Contact sur Radio Spoutnik Afrique et je suis ravi aujourd'hui d'être co-présentateur de cette émission spéciale de l'Afrique en marche.
Nous avons le plaisir d'accueillir Aymeric Choprad, géopolitologue et homme politique français qui a enseigné pendant plusieurs années au Collège Royal de l'Enseignement Militaire du Maroc et à l'École Supérieure de Guerre de Tunis. Nous allons analyser avec notre invité les récents bouleversements géopolitiques et géoéconomiques mondiaux. Nous accorderons particulièrement une attention à l'impact de ces changements radicaux sur les pays africains.
A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Monsieur Choprad, bonjour et bienvenue à Moscou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous donner les raisons de votre présence en Russie ?
Bah écoutez, je suis venu ici à Moscou pour intervenir au Forum économique de Moscou, qui est toujours une réunion très intéressante de débat sur les problématiques économiques et géopolitiques du monde, avec des experts, et je ne parle pas de moi, de qualité, venant du monde entier. Et cette année, évidemment, une représentation du monde asiatique importante, avec des collègues du monde académique indien, du monde chinois. Il y avait aussi un Allemand, donc nous étions deux Européens. Évidemment, c'est moins que d'habitude, mais c'était des débats tout à fait passionnants, intéressants et ouverts sur les évolutions, parce que ça ne vous a pas échappé, l'histoire s'accélère depuis février 2022. Et on a traité surtout, en fait, de cette... ce qui semble être une sorte de sortie du globalisme américain, pour aller vers un monde multipolaire. Et finalement, on en parlera, mais les États-Unis qui cherchent à s'opposer à cette multipolarité, eh bien, ils se voient confrontés à une accélération de la multipolarité qui est un peu l'effet inverse qu'ils attendaient.
Je vais poursuivre avec Volodymyr Zelensky, qui est arrivé ce matin en Pologne pour rencontrer son homologue Andrzej Duda, ainsi que le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki. Selon vous, quels sont les enjeux de cette visite ?
Bah écoutez, d'abord, je pense que le régime ukrainien est en difficulté. Il est en difficulté militaire, il est en difficulté politique. Je suis assez convaincu qu'un certain nombre d'Européens, y compris en France, en Allemagne, commencent à comprendre qu'il va falloir sortir de cette crise. Et donc, Zelensky est probablement venu chercher secours auprès des Polonais. Les Polonais, et le régime polonais en particulier, ne sont pas sans arrière-pensée sur l'Ukraine. Je pense que, et c'est ma conviction depuis le début, qu'il y a une forme d'accord avec les Américains pour que la Pologne s'empare de l'Ouest, et voire d'une partie du centre de l'Ukraine, et que l'État ukrainien s'effondre, récupéré en partie par la Pologne. Donc c'est une des perspectives possibles.
Justement, la Pologne, le partage du territoire ukrainien, je veux en parler avec vous plus en détail. Sur vos réseaux sociaux récemment, vous avez écrit que la victoire de la Russie n'était qu'une question de mois, que Washington laissera la Pologne occuper l'ouest de l'Ukraine à l'issue de ce conflit, et que deux options seront face à nous. La première, soit une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN qui ne pourra pas rester au stade conventionnel, soit... Moscou et Washington traceront un trait. Pouvez-vous donner plus de précisions pour nos auditeurs ?
Mais en fait, vous savez, c'est une sorte de logique de l'histoire. Moi, je crois que dans ce conflit, il y a un enjeu de sécurité vital pour la Russie, et que la Russie, qui a, on le sait dans l'histoire, une grande capacité de résilience, une grande capacité d'accepter des souffrances, car il y a des souffrances, c'est évident, bien sûr. Il y a des gens qui meurent, c'est difficile, ça prend du temps. Mais la Russie a pris cette décision, qui était sans doute une décision très difficile et douloureuse, que de lancer cette opération spéciale, avec des raisons que moi, je comprends personnellement, parce qu'au fond, moi j'ai une vision longue de l'histoire. Donc pour moi, l'histoire n'a pas commencé le 24 février 2022. Elle a commencé bien avant. Et elle a même commencé, je dirais, d'une certaine manière, alors sans aller dans le temps très long, avec la chute de l'Union soviétique et avec la progression du projet américain, de l'expansion de l'OTAN, et du fait que, sans arrêt, la Russie a été repoussée dans son influence stratégique, et qu'à un moment donné, elle était un peu contrainte de dire stop.
Et que pensez-vous, donc, dans ce contexte, par rapport à l'idée d'un gel de ce conflit? C'est-à-dire en imaginant une ligne de démarcation entre les deux parties, parce que la dynamique actuelle ne laisse pas présager une fin du conflit, mais au moins un gel. Et imaginez peut-être la solution que Gorbatchev et puis Jacques Chirac a repris après, c'est une sécurité dans un cadre d'accord croisé assuré à l'Ukraine et par la Russie et par l'OTAN.
Mais vous savez, on revient souvent au bout d'un moment à une sorte de bon sens. Ça fait longtemps que la Russie demande une architecture de sécurité pour l'Europe, que la Russie demande des garanties de sécurité. Elle souhaitait simplement une forme de neutralité de l'Ukraine, que l'Ukraine ne devienne pas un pays de l'OTAN et que l'OTAN ne s'installe pas aux portes de la Russie. Imaginez, est-ce que les États-Unis seraient contents que la Russie s'installe aux portes à leurs frontières?
Bon, c'est au Mexique, par exemple.
Au Mexique, voilà. Ou si vous voulez, ça me paraît être évident, et souvent on oublie ça en Europe, on oublie cette évidence, c'est que la Russie, comme toutes les grandes puissances, a un besoin de garantie de sécurité dans son environnement proche, et donc elle ne demande rien d'autre que de garantir d'une part les droits des minorités russophones, qui, il faut quand même le rappeler, ont été opprimées depuis un certain nombre d'années, et leurs droits bafoués en permanence, dans le Donbass en particulier, et elle demandait des garanties de sécurité. Donc je pense qu'à un moment donné, on va aller vers ça. Alors c'est malheureux parce qu'il y aura eu beaucoup de morts pour finalement tirer une conclusion qui est évidente, qui est que l'État ukrainien, ou ce qui va en rester finalement, doit être un État neutre et que la sécurité doit être apportée aux populations russophones de l'Est. Et sans doute, comme vous le dites, une ligne sera tracée. Et puis là, les gens pragmatiques, et j'espère que les gens de l'Ouest seront pragmatiques à nouveau, parce qu'ils ont semble-t-il, oublié la réelle politique au profit d'une certaine idéologie et surtout des intérêts américains, qui sont quand même principalement en œuvre dans toute cette affaire depuis le début. Mmh. Et j'attends, et je le dis depuis le début, qu'on se mette autour d'une table, qu'on trace une ligne, que le conflit s'arrête, que les coups de canon s'arrêtent, et qu'on arrive à une situation pacifiée en Europe.
D'accord. Et j'aimerais bien enchaîner sur une question économique par rapport à la situation qui a été créée donc, dans le monde suite au lancement de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Alors, il y a une inflation qui est galopante partout. Sans doute, le prix de l'énergie ayant explosé a impacté tout. Et puis, il y a un problème, en particulier en Europe, de crise énergétique conjugué à l'inflation, dû en général à l'effet boomerang des sanctions contre la Russie. Alors, où en est la situation actuellement en Europe? Est-ce que ça évolue? Comment vous voyez la chose?
Si vous voulez, en fait, cette situation, c'était... Nous sommes confrontés à une chose finalement assez simple, c'est que la mondialisation américaine, ce qu'on appelle la globalisation, qui avait commencé, pour faire simple, avec Bretton Woods en 1944, elle est tout simplement en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que les États-Unis et leurs alliés n'ont pas compris que le monde était en train de devenir multipolaire. Et quand, en 1990, quand l'URSS s'est effondrée, il y a eu une tentative d'accélération de l'unipolarisation du monde par les Américains, une tentative d'une financiarisation au profit des intérêts américains. Et parallèlement, il y avait déjà une dynamique de multipolarité qui se mettait en place. Mais chaque fois qu'un État S'opposer à la mondialisation américaine, essayer de défendre sa souveraineté énergétique. Je pense aux régimes qu'on appelait des régimes nationalistes énergétiques, comme l'Irak ou plus tard la Libye. Ils ont été brisés, ils ont été cassés par des guerres d'agression pure et simple qui bafouaient le droit international. Et puis, c'est très intéressant de constater que déjà à l'époque de Saddam Hussein, on voulait sortir du pétrole dollar en Irak, que Kadhafi avait aussi esquissé cette idée de la dédollarisation. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la suite de ce qui était déjà engagé un peu timidement par certains États. C'est qu'aujourd'hui, il y a un effondrement de cette dollarisation de l'économie mondiale. Les Américains essaient désespérément de s'y opposer, mais tous les jours, l'actualité nous montre un événement qui va dans le sens de la dédollarisation et dans le sens de la multipolarité. Je pense aux accords sur les échanges en énergie utilisant des monnaies comme le yuan, comme la roupie indienne, les Émiratis, l'Arabie Saoudite vont pouvoir échanger directement le pétrole avec des pays comme l'Indonésie, etc., dans des monnaies nationales. Donc, petit à petit, c'est toute cette architecture de la mondialisation américaine qui est contournée et qui est remplacée. Et ça, c'est fascinant de le constater. Alors, je reviendrai sur l'inflation, si vous voulez, sur l'énergie un peu plus spécifiquement. Mais je voulais insister sur, si vous voulez, la trame générale, l'histoire qui est en train de se mettre en place. Le globalisme est en train de s'effondrer, la multipolarité est en train de se mettre en place de manière dramatique à travers ce conflit en Ukraine, mais c'est aussi une accélération de l'histoire qui nous montre que la Russie, et c'est un point auquel je veux arriver, contrairement à ce qu'on entend dans les médias européens, la Russie n'est pas isolée. La Russie, elle est certes coupée maintenant de ses liens avec l'Union européenne parce que l'Union européenne, stupidement et en contradiction avec ses intérêts, a suivi les États-Unis. Mais la Russie, elle a l'ouverture sur l'Inde, sur la Chine, sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique qui lui ouvre les bras, c'est-à-dire tout le monde émergent. Le monde de demain, où il y a une démographie galopante, où il y a des potentiels de développement considérables. Donc la Russie n'est pas isolée. Et ça, c'est un point important. C'est un des leviers de la multipolarité. Et elle est en train de le prouver tous les jours.
Oui. Je voudrais justement revenir avec vous sur la dédollarisation. Vous avez parlé des échanges en yuan qui s'intensifient de plus en plus. Mais on a aussi un fait curieux, c'est celui de l'Indonésie, qui va renoncer au système de paiement Visa et Mastercard. Et donc, si vous voulez, pourquoi l'Occident n'a pas été capable, il n'a pas su anticiper l'émergence de ce monde multipolaire? Et selon vous, comment va-t-il réagir et est-ce qu'on doit s'en inquiéter?
Alors, tout d'abord, je veux dire un petit mot spécifique sur l'Indonésie, qui est un pays que j'aime beaucoup. J'ai enseigné au Lemhanas, qui est l'institut stratégique à Jakarta. J'ai été invité à de nombreuses reprises pour des conférences. Vous savez, en Indonésie, il y a eu deux tendances géopolitiques qui sont opposées régulièrement. Une tendance à l'alignement sur les États-Unis pendant la guerre froide, avec un régime un peu aux ordres. Et puis une tendance qui vient, on se souvient de Bandung, le non-alignement, avec cette idée déjà de la multipolarité. Du fait que l'Indonésie voulait avoir des relations diversifiées. Et donc, dans l'ADN de l'Indonésie, il y a cette idée de multipolarité. Et aujourd'hui, on la voit avec cette volonté de sortir effectivement du dollar et là aussi de se diversifier. Donc, c'est très intéressant. C'est le plus grand État archipélagique du monde, l'Indonésie. C'est un État qui a un potentiel maritime considérable, qui est très important en Asie du Sud-Est, avec lequel la Russie a aussi de très bonnes relations. La Chine aussi. Donc là encore, nous avons un exemple d'un des... C'est démographiquement un pays musulman évidemment considérable.
C'est le premier pays.
C'est le premier.
Sur le plan démographique.
Vous avez le Nigeria aussi qui est important. Mais c'est un pays donc à suivre de très près.
Juste pour continuer à rebondir sur cette question que nous jugeons tous, même d'après ce que vous venez de dire, extrêmement important, cette question de la dédollarisation. Alors, Moi, je voudrais apporter un autre contexte, c'est celui de la faillite de pas mal de banques américaines. Il y a des études qui sont sorties récemment qui parlent aussi de 200 banques, pas les banques systémiques, mais des petites banques comme la SVB régionale qui risquent la faillite. Alors, comment est-ce que vous pensez que le système européen peut être atteint, malgré toutes les assurances qu'on entend par-ci et par-là. Et dans ce cas-là, n'est-ce pas un feu d'artifice qui, normalement, devrait attirer l'attention de l'élite politique pour se poser la question sur la relation entre l'euro et le dollar, et est-ce que vraiment ça vaut le coup? À chaque fois qu'il y a une secousse aux États-Unis...
Bien sûr. Vous savez, ce qui a caractérisé, à mon avis, fortement l'évolution du capitalisme industriel occidental dans ses diverses formes, puisqu'on parlait du capitalisme rhénan, qui était plus industriel, du capitalisme financier anglo-saxon, c'est qu'il y a eu une évolution globalement du monde occidental vers une financiarisation, avec l'invention de tout un tas de produits financiers, qui ont... Et cette évolution a évidemment déconnecté progressivement l'économie financière de l'économie matérielle et générer des chiffres absolument phénoménaux en termes de finances. Sauf que la financiarisation, ça repose, c'est un peu comme la religion, ça repose sur la foi. Quand la foi est là, ça marche très très bien, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond. On peut continuer, construire des produits dérivés, adosser tel produit à tel autre, etc., avec des effets de levier impressionnants. Mais tout ça, c'est de la foi. Mais dès que la foi est entamée, tout peut s'effondrer très vite et à une vitesse vertigineuse. On l'a vécu déjà avec la crise en 2008, mais cette fois-ci, on sait très bien que la masse en jeu, elle est encore plus considérable. On parle des trillions. Du jour au lendemain, l'économie capitalistique occidentale peut traverser un effondrement brutal. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un début de doute, eh bien, la Fed, la Fédérale Réserve et la Banque Centrale Européenne n'ont pas d'autre solution que d'imprimer de la monnaie. Mais plus ils impriment la monnaie, évidemment, qui est déconnecté de toute autre valeur tangible, comme l'or, bien sûr. Depuis 71, il n'y a plus le lien convertibilité hors dollar, vous le savez. À partir du moment où vous imprimez sans cesse, eh bien vous dévaluez, vous continuez à dévaluer votre monnaie. Et c'est pour ça que vous voyez que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde occidental. Mais vous voyez de plus en plus de gens qui vont vers l'or. L'or monte, évidemment, pour garantir leurs avoirs. Le Bitcoin aussi devient un actif qui intéresse, avec potentiellement la capacité de devenir une forme de monnaie mondiale. Et puis on voit aussi, parallèlement, cette dédollarisation de l'économie pétrolière et gazière avec les échanges directs sans passer par l'intermédiaire du dollar de la part de beaucoup de pays. Tout ça fait que je pense que... alors, je ne suis pas devin, je ne peux pas prédire à quel moment ça va s'effondrer, mais si vous voulez, c'est une course en avant. Donc, c'est évident que le monde occidental est extrêmement fragile et qu'à tout moment, il peut y avoir une très très grave crise financière. Et dans ces moments-là, qui résiste mieux ? Les pays qui sont adossés à des choses beaucoup plus tangibles, à des matières premières, à une économie productive. Certes, qui peut avoir des limites, parce que l'économie russe industrielle a aussi des limites et des défauts. Et aujourd'hui, d'ailleurs... Elle rencontre un certain nombre de problèmes. On en parlera avec la fermeture, avec le lien européen. Il manque dans certains domaines des pièces détachées, des choses comme ça. Même si la Russie s'organise avec l'Asie, ces problèmes existent. Mais la Russie, elle a son territoire qui est immense, elle a ses ressources qui sont gigantesques, ses ressources minérales, gazières, pétrolières, forestières, tout un tas de ressources tangibles. Et dans ces moments de crise financière, c'est un pays qui passera mieux la crise que d'autres.
D'accord. Et une autre question sur cette question-là de l'inflation, sans vouloir tirer un peu les choses par les cheveux, et j'aime bien avoir votre avis sur cette dévaluation de l'euro par rapport au dollar.
avec le risque que les Allemands encore le dévaluent encore l'euro, parce que leurs exportations hors Union européenne ont drastiquement chuté à cause de la cherté des produits.
Bien puisque sûr, et surtout du coût de l'énergie. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que l'Europe s'est tiré une balle dans le pied en se coupant du gaz russe. On avait une énergie qui était accessible, pas chère, et on se retrouve à avoir adhéré au modèle américain où il faut aller acheter du GNL américain, ou racheter du pétrole d'origine russe, mais via l'intermédiation de l'Asie, donc en le payant plus cher. En fait, on a créé les conditions de destruction de notre compétitivité industrielle, ce qui est complètement fou. Alors, à multiples titres, en France, parce que, et ça c'est pas lié à la crise avec l'Ukraine, mais les écologistes dans leur idéologie anti-nucléaire ont lessivé le cerveau d'une partie de la classe politique française, et on s'est éloigné d'un des atouts pour les Français de la compétitivité industrielle, qui était l'énergie pas chère grâce au nucléaire. Les Allemands ont fait l'erreur aussi de sortir du nucléaire. Et donc, on se retrouve, Allemands et Français, avec une compétitivité industrielle qui est abaissée, bien sûr. Alors, comment vous faites pour essayer de rattraper de la compétitivité? Vous jouez sur la monnaie. Donc, en dévaluant l'euro par rapport au dollar, c'est un moyen de reprendre quelques marges à l'exportation. Fondamentalement, c'est quand même une situation très difficile, et surtout pour les citoyens européens, le panier de la ménagère, je peux vous dire que les chiffres officiels, il ne faut pas y croire. Hein. Quand dit 8%, moi je peux vous dire, moi je vis en Autriche, je suis français, mais je vis en Autriche, et je vais aussi beaucoup en France, je compare, je vois vraiment plutôt du 25% sur les produits alimentaires que du 6 ou du 8%.
Absolument.
C'est impressionant. C'est impressionnant. Et je sais, moi je n'ai pas de problème personnel. Ça ne change pas ma vie, mais je pense aux gens qui ont des revenus modestes, c'est dramatique pour eux. C'est dramatique. Je pense d'ailleurs qu'ils mangent beaucoup moins bien. Ils sont obligés de beaucoup moins bien manger. Ils ont une alimentation moins saine. Et ça, personne n'en parle dans les médias en Europe.
Alors après, par contre, sur la hausse des prix en France, on a un média, c'est France Bleu, qui fait un comparatif.
Oui.
Au niveau des prix, région par région, et vous avez tout à fait raison, moi je regarde régulièrement cet indicatif, la hausse des prix elle est faramineuse, on est à effectivement plus de 25% de hausse sur certains produits, je pense notamment au sucre.
Absolument.
Où c'est absolument terrifiant.
Le sucre, le beurre, tout un tas de produits de première nécessité sont extrêmement chers, l'huile évidemment, mais les exemples sont très nombreux.
Avec des disparités régionales, il y a des régions où l'inflation va être la moins forte, j'ai vu c'était notamment le cas de la Vendée et d'autres régions françaises où l'inflation elle est plus élevée que dans d'autres territoires. Donc elle est inégale.
Exactement. Avec un phénomène nouveau, je lisais quelques articles sur le sujet, vous avez des gens ou des étudiants très modestes qui volent. Alors, je ne justifie pas, mais c'est quand même un symptôme.
Absolument.
De la paupérisation d'un peuple que de voir l'explosion des vols alimentaires, c'est-à-dire des petites choses qui sont rajoutées dans les poches à côté du caddie pour avoir un peu de viande. Et les hypermarchés en Europe ont dû mettre des systèmes de sécurité supplémentaires pour protéger la viande notamment et d'autres produits, d'autres denrées alimentaires.
Cette situation, Monsieur Choprad, si l'on regarde un peu l'histoire de toutes les crises majeures qui frappent l'économie mondiale, on se rend compte outre le désordre qu'elle crée, mais elle provoque aussi un changement de pouvoir. Est-ce que cette crise-là ne risque pas justement de servir aux États-Unis pour ruiner ce qui reste d'industrie en Europe et la ramener aux États-Unis par ce biais de jeu sur la monnaie?
Alors, vous avez raison, mais là encore, on peut opposer deux dynamiques. D'une part, il y a l'accélération un peu désespérée du globalisme américain qui, pour survivre, est en train, pour faire simple, de tuer un peu ses propres alliés, comme vous dites, de tuer le système industriel. Alors, je vais prendre un exemple. La France, une de ses industries absolument, remarquables, compétitives, et qui est encore un des éléments de la souveraineté française, qui est le moteur de son industrie, c'est l'industrie de défense. Mmh. Mais en fait, en faisant de la Pologne une forteresse militaire américaine, les États-Unis essaient aussi d'otaniser encore plus les pays européens sur le plan du matériel militaire pour tuer aussi l'industrie de défense française, qui est une des dernières indépendantes en Europe. C'est un exemple, mais vous allez en trouver plein d'autres. On parlait à l'instant de la perte de compétitivité industrielle à cause de l'énergie et du fait que l'Europe s'est détournée de la Russie où elle avait une énergie à bas cher, à bas prix, et c'est pas vrai que c'était un problème pour sa souveraineté. En quoi c'était une perte de souveraineté pour les pays européens que d'acheter du gaz russe? On achète aussi du gaz algérien, on achète du GNL au Qatar, c'est pas un problème, il y a une diversification. En quoi c'était un problème? Donc on a raconté n'importe quoi aux gens, si vous voulez, pour leur faire peur. C'est vraiment une...
Et puis c'est terrifiant quand on voit des industriels allemands disent que si vous ne réglez pas ce problème, eh ben nous irons nous installer aux États-Unis.
Oui, ah, oui, c'est-à-dire
que c'est un peu le piège qui se referme.
Les États-Unis avaient vécu une désindustrialisation aussi, comme toute l'Europe, et l'Allemagne était peut-être moins désindustrialisée. Malheureusement, bon pays, la France a connu ces dernières années une très forte désindustrialisation, en partie parce qu'il y avait l'élite politique, entre guillemets, qui croyait bêtement à cette fable de, vous savez, des trois âges, l'ère agricole, et puis après l'ère industrielle, et puis après l'ère des services, comme si il y avait une sorte de sens de l'histoire, alors qu'on sait très bien qu'il y a un renouveau de l'industrie sous d'autres formes, et que l'agriculture est aussi un secteur moderne qui se modernise, et que nourrir le monde et la planète, c'est essentiel. Donc voilà, on est dans des idéologies qui ont petit à petit s'appelait les fondements de la puissance et de la souveraineté des nations européennes et qui les ont aliénés davantage aux États-Unis. Bah, vous avez l'événement récent, la Finlande qui vient d'entrer dans l'OTAN.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, nous vous retrouverons en compagnie de notre invité Aymeric Choprade pour la seconde partie de l'Afrique en marche.
À tout de suite. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako.
Je rappelle que notre invité est aujourd'hui Aymeric Choprade, géopolitologue français et ex-député européen.
La Finlande, pour rappel pour nos auditeurs, elle partage 1300 km de frontière avec la Russie, ce qui n'est pas rien, et elle est devenue donc le 31e pays membre de l'Alliance Atlantique, et Moscou a condamné évidemment cette adhésion en dénonçant une escalade de la situation parce qu'elle considère que tout élargissement de l'Alliance à ses frontières est une atteinte à sa sécurité. Et on en revient de toute façon à cet entretien informel entre M. Shevardnadze et le secrétaire d'État américain de l'époque. Et il y avait eu cet accord qui était resté seulement tacite, qui n'avait pas été transcrit par écrit, d'un non-élargissement de l'OTAN aux frontières russes. Alors qu'on a vu très rapidement après la chute de l'Union soviétique que les États-Unis ont fait une fuite en avant, ils ont profité de la faiblesse de la Russie post-URSS pour en profiter. Et donc, si vous voulez, moi, la question que je voudrais vous poser, comment on peut éviter une confrontation directe entre Moscou et l'Alliance Atlantique ?
C'est une bonne question et c'est une question évidemment grave. Je ne sais pas si j'ai la réponse. C'est pour moi ma première préoccupation aujourd'hui parce que j'ai vraiment le sentiment... moi, ça fait 25 ans que je travaille sur les questions de géopolitique, que je lis les textes de la stratégie américaine. Et pour moi, il n'y a pas de... Malheureusement, hein, je le dis, il n'y a pas de surprise dans ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un programme géopolitique américain avec une fuite en avant. Brzezinski, en 97, dans Le Grand Échiquier, il écrivait déjà que la seule façon, finalement, que le jour où l'Ukraine sera contrôlée par l'OTAN, eh bien, cette fois-ci, la puissance russe sera abaissée. En fait, il y a À partir du moment où l'URSS s'est effondrée, les Américains ont clairement dans leur texte désigné la Chine comme potentielle puissance numéro un dans le monde. Et à ce moment-là, ils se sont dit comment on va faire pour bipolariser le monde, c'est-à-dire recréer un bloc autour de nous face à la Chine. Et ils ont engagé un programme d'otanisation accélérée de toute l'Europe qui s'est faite par phase, 99, toutes les entrées successives, jusqu'à la tentative sur l'Ukraine. Et c'est ça qui est en train, en fait, de s'accomplir avec, parallèlement, souvenez-vous, les révolutions colorées. Donc le but, c'était de mettre en place en Europe centrale, en Europe orientale, en Asie centrale même, il y a eu le Kyrgyzstan, une tentative, des régimes pro-OTAN, qui voulait se séparer de la Russie et rentrer dans l'OTAN. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment la continuité de cette histoire pour essayer de briser l'indépendance de la Russie. Et je pense que le pari complètement dingue et fou des Américains, et c'est là qu'on voit que ces gens... Enfin, en tout cas, soit ces gens sont... Moi, j'ai deux hypothèses. Soit ils sont dans une forme d'apocalyptique... qui est difficile à cerner, qui est du domaine du messianisme religieux, soit c'est purement de l'incompétence et de l'incapacité à comprendre ce qu'est l'histoire de la Russie. La Russie, les Russes, ne vont pas se retourner contre leur président parce qu'ils sont agressés par les États-Unis. Au contraire, ils vont soutenir de façon patriotique les intérêts de leur pays, même s'il y a des débats en interne, que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur tel et tel sujet. Mais il y a un principe de base, c'est qu'un pays se sent agressé, il se défend. Et donc, c'est une folie de penser que en tentant d'humilier et d'agresser encore plus la Russie, eh bien, le président Poutine s'en ira comme ça, et puis les Américains pourront installer une marionnette qui sera favorable au rapprochement de la Russie avec les États-Unis et l'Europe contre la Chine. Tout ça ne fonctionne pas, c'est une aberration.
Et si l'on reprend ce que Brzezinski avait dit justement dans ce chapitre-là consacré à l'Ukraine, il avait très bien expliqué que si la région occidentale veut survivre, lui il sous-entend anglo-saxonne, il faut absolument couper la Russie de l'Allemagne. C'est-à-dire pour que l'idée, par exemple, du général de Gaulle de faire l'Europe de l'Oural jusqu'à l'Atlantique ne se réalise pas pour eux. La liaison Allemagne-Russie est mortelle pour
Absolument.
L'Empire
maritime. Mais au-delà de ça, vous savez, c'est la fameuse géopolitique, pour reprendre les classiques de la géopolitique anglo-saxonne. Vous connaissez Mackinder.
Oui.
Mackinder disait déjà, donc avec ce fameux article de 1904 sur le pivot géographique. En fait, c'était la problématique de l'Angleterre qui a été transposée aux États-Unis. Comment faire ? Nous sommes une île, quelque part, nous sommes loin de l'Eurasie, parce que l'histoire se déroule sur le continent eurasiatique, la vaste Eurasie. Comment faire pour empêcher cette Eurasie de dominer le monde ? Et pour nous, l'île anglo-saxonne, Angleterre puis plus tard États-Unis, pour être numéro un mondial. Et Mackinder répondait de deux façons simultanées. Et vous allez voir que ça a été appliqué phase par phase. La première façon, c'était de maintenir sur le continent eurasiatique en permanence une division Est-Ouest, c'est-à-dire la France et l'Allemagne ne doivent pas se rapprocher, l'Allemagne et la Russie ne doivent pas se rapprocher, la Russie et la Chine ne doivent pas se rapprocher. Ça, c'est la division Est-Ouest. Et sur les contours maritimes, donc les littoraux, donc autour de ce que Mackinder appelait le Heartland, le cœur continental, hein, constitué de la masse germanique, russe et une partie de la Chine, c'était d'essayer de dominer ces pays qui avaient des accès maritimes pour enclaver les pays continentaux. Toute cette géopolitique, elle a été parfaitement appliquée avec, pendant la guerre froide, et c'est repris par le géopoliticien Spykman, l'OTAN, l'OTASE en Asie du Sud-Est, le pacte de Bagdad au Moyen-Orient, tout cet encerclement qui était fait des puissances continentales, et puis la division Est-Ouest, la rivalité Est-Ouest qui était jouée par la politique américaine. On n'est pas sorti de ça, et c'est exactement la même politique qui était appliquée.
Et juste pour rebondir sur la question de mon collègue, cette adhésion de la Finlande à l'OTAN, Est-ce que ce n'est pas un prélude à quelque chose de semblable à ce qui se passe dans, dans la mer Noire, qui pourrait, n'en déplaise, avoir la même chose sur la mer Baltique?
C'est évidemment, de toute façon, vous avez les pièces d'un puzzle, hein, clair, c'est le retour d'une forme de guerre froide, c'est-à-dire qu'on va être dans des lignes figées, à moins d'aller à une conflagration, et j'ose pas y penser, et j'espère que les pays européens comprennent bien que la Russie est une grande puissance, qu'elle est une puissance conventionnelle importante et nucléaire, et que la Russie ne laissera pas ses intérêts vitaux être menacés. La Russie n'a jamais eu de projet de domination de l'Europe centrale ou des pays de l'ouest de l'Europe. Donc, faire croire cela aux populations européennes, aux opinions publiques européennes, est une aberration. La Russie veut juste protéger son environnement. Donc, revenons à la table, négocions, arrêtons cette expansion de l'OTAN, et au passage, où est l'Europe puissance dans tout ça? On nous parlait d'une Europe puissance indépendante, elle est moins que jamais souveraine, cette Europe. Elle est complètement otanisée par les intérêts américains. Et je dirais même, et ça c'est dramatique pour le peuple américain, mais c'est un autre débat, c'est une accélération de ce que j'appelle le deep state, l'état profond américain, cette oligarchie qui veut empêcher la bonne entente entre les États-Unis et la Russie. On voit bien quand Trump a essayé de dire mais pourquoi finalement on se dispute, eh bien il est mis hors jeu. Hier on lui a passé des menottes, hein, si j'ai bien suivi l'actualité. C'est quand même hallucinant. Je dis pas que c'est un petit saint, il a sans doute ses propres travers, mais quand même, il a été président des États-Unis. Il se passe quelque chose là. Il y a une accélération par cette oligarchie otanienne d'un projet qui est assez, au fond, qui est complètement anti-liberté. Et ça, c'est aussi un point important à souligner.
Mais justement, avec cette affaire qui est liée à Donald Trump, je rappelle quand même que Donald Trump est candidat pour son retour à la Maison-Blanche en 2024. Est-ce qu'au fond, pour cet état profond, Donald Trump serait pas un peu l'aiguille, le bâton qui viendrait se coller dans les roues de cet état profond américain? Parce que pendant 4 ans, il a quand même posé pas mal de soucis à cet état profond.
Ben, je suis d'accord. La réponse est un peu dans votre question. Vous avez raison. Non, mais c'est évident. D'ailleurs, on voit bien que les autres solutions républicaines sont étrangement alignées sur la politique anti-russe actuelle. Donc, Trump, avec ses défauts, était manifestement le seul qui considère que sur le long terme... je pense que Trump, au fond... Derrière son côté un peu fantaisiste, etc., qu'on peut ne pas aimer, hein, ça, la personnalité, c'est autre chose. Mais je pense que Trump est un pragmatique et qu'il a compris depuis longtemps que le monde devenait multipolaire et que les États-Unis pouvaient rester et allaient rester une grande puissance, mais que c'était complètement illusoire de continuer à penser que les États-Unis pouvaient dominer le monde. Et je pense que ce pragmatisme, presque candide, par rapport à un état profond qui, lui, veut, qui est en plus très, très dominé par le complexe militaro-industriel, donc a intérêt, pareil, à armer, à créer de la tension, du chaos pour armer davantage le monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La première armée européenne qui est en train de se profiler devant nous, hein, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la France, c'est la Pologne.
Ouais.
C'est ça que les Américains sont en train de préparer. D'ailleurs, ça agace en France, mais on est en train de découvrir que l'armée polonaise, dans peu de temps, elle sera supérieure à l'armée française. Donc ça, c'est quand même...
Et en plus de ça, ça leur donne des ailes et qui font des déclarations très belliqueuses et extrêmement dangereuses.
Que je trouve même suicidaires. Je me dis, je ne comprends pas les Polonais. Ils sont à côté de la Russie, ils devraient s'entendre avec, ils peuvent tout à fait s'entendre avec le côté ouest et avec le côté est. Pourquoi aller dans cette spirale de la violence, de la montée en puissance avec la Russie pour faire le jeu des Américains? C'est évident que les Américains les manipulent pour les armer davantage et ils les exposent, ils les mettent en première ligne.
Je voudrais maintenant qu'on passe sur un autre continent, le continent africain. Prochainement, fin juillet... il y aura le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Et récemment, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, il a déclaré que les États-Unis et leurs vassaux font tout pour dissuader les pays africains de participer au prochain sommet Russie-Afrique. Mais on a remarqué que M. Lavrov également a tenu à souligner cette chose très intéressante, c'est que de moins en moins de pays africains sur le continent souhaitent sacrifier leurs intérêts pour Washington et tout le monde occidental en général. Et donc, si vous voulez, en quoi la multiplication de ces partenariats qui est souhaitée par de nombreux pays africains est une menace pour Washington et pour les anciennes puissances coloniales ?
Mais écoutez, l'Afrique d'abord c'est évidemment un continent émergent, la démographie est très, très forte, très, très vivace, et moi pour y voyager à la fois parfois en Afrique francophone et ces derniers mois au Kenya ou dans d'autres pays anglophones, j'ai pu constater que cette tendance à la multipolarité, là aussi elle est réelle et elle est avérée. Tenez, on parlait du Kenya, je crois que c'est le 22 ou le 23 mars, il y a eu cette décision de Kenya. Voilà, avec les Émirats et l'Arabie Saoudite aussi de pouvoir utiliser le shilling, voilà, le shilling kényan. Donc là aussi, volonté de contourner le dollar. Donc les pays africains ne veulent pas être otages de cette rhétorique occidentale qui veut diaboliser la Russie. Ils sont pas dupes, ils ne sont pas dupes, et donc ils veulent pouvoir entretenir des relations avec tout le monde. Et donc il y a une espèce de fantasme qui est développé actuellement que la Russie c'est le grand méchant loup en Afrique qui tirerait toutes les ficelles. Bon, d'abord faut rappeler quand même que la Russie elle a une politique africaine. Elle en a eu une pendant l'ère soviétique. Ici, il y a eu un institut important qui porte le nom de Patrice Lumumba, où on a formé des cadres africains. Il y a une tradition de formation et de coopération dans beaucoup de pays africains. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est plus une réactivation de liens qui existaient, de liens anciens, que quelque chose de véritablement nouveau qui serait fait contre ou dans le dos de la France ou d'autres pays. Deuxièmement, je pense que c'est l'erreur du Quai d'Orsay. C'est l'erreur de mon pays, et moi je suis un avocat de la politique africaine. Je crois dans la politique africaine, mais je ne crois pas dans la France-Afrique. C'est-à-dire que la vraie politique africaine de la France, c'était de comprendre qu'on a un atout en tant qu'ex-puissance de tutelle coloniale avec la francophonie, avec des liens historiques forts, avec une connaissance réelle de ces pays africains, parce qu'on a une histoire commune, qu'on a travaillé sur la culture, la sociologie de ces pays, qu'on a tout un fond de même intellectuel, hein, de livres qui ont été publiés sur l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, etc. C'est pas rien. Mais l'erreur, elle est de croire qu'on pouvait enfermer des pays dans une relation exclusive. L'exclusivité, ça ne marche pas. Là encore, c'est la multipolarité. C'est-à-dire qu'un pays africain qui est souverain, il peut tout à fait se dire, bon, moi je parle français, c'est ma deuxième langue officielle, etc. Mais j'ai envie de commercer avec les Chinois, j'ai envie d'échanger avec les Indiens, j'ai envie d'avoir une relation politique ou autre, ou même de sécurité avec la Russie, etc. Au nom de quoi on peut empêcher les pays africains de diversifier leurs relations. Et on voit bien que même des puissances comme le Brésil s'intéressent à l'autre côté de l'Atlantique, à l'Afrique lusophone, qui existe aussi. Et donc, c'est ça qui n'a pas été accepté, cette absence de vision. C'est une forme de médiocrité, hein, de la part d'un certain nombre de diplomates, je le dis comme je le pense. C'est une facilité de se dire, bon, on est sur une position installée, on ne se remet pas en question. Et pour garder notre position, on va même soutenir les plus nuls, les plus corrompus, ceux qui ne développent pas leur pays. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, explose à la face de la France aujourd'hui en Afrique. Et moi, je dis à mes amis africains, faites la différence entre la France et la politique africaine de la France telle qu'elle a été menée aujourd'hui. Sur le long terme, la France a vocation à avoir un lien important en Afrique, mais il faut aussi qu'elle accepte cette diversification. La Russie a toute sa part à jouer. Je ne la vis pas personnellement comme une opposition, et je ne pense pas et je ne vois pas au nom de quoi la Russie aurait comme objectif pur et simple d'évincer la France. C'est un partage d'influence qu'il faut construire ensemble en bonne entente. Et c'est pareil pour l'Algérie, pour le Maroc, pour tout un tas de pays. Des gens sont offusqués parce que le Maroc, par exemple, est un pays qui entretient de bonnes relations avec les États-Unis, etc., se sont étonnés que le Maroc n'ait pas voté la condamnation à l'ONU de la Russie. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des diplomates marocains qui m'ont dit, c'est tout simplement, nous, on ne veut pas rentrer dans ça. On a de bonnes relations avec la France, avec les États-Unis, mais on veut garder de bonnes relations avec la Russie, avec la Chine. Pourquoi on se fâcherait et on rentrerait dans ce jeu bipolaire qui est un piège pour tout le monde? Donc voilà, c'est...
Et pourtant, c'est-à-dire les pays européens, en particulier la France, il y a là encore des outils stratégiques extrêmement importants et très extrêmement compétitifs, comme les transports rapides. Par exemple, les TGV, c'est le premier pays à avoir construit ça. Le nucléaire.
Bien sûr.
Le nucléaire, donner le nucléaire, par exemple, aux pays africains qui ont besoin aussi bien de l'eau, de l'électricité, de l'énergie.
Exactement. Les sociétés françaises dans le domaine de l'eau, de la dépollution, etc., sont parmi les premières du monde, si ce n'est les premières du monde. On a de remarquables technologies. Donc il y a énormément à faire en Afrique, c'est évident. Mais je crois qu'il faut, on en revient toujours à ce problème, accepter le monde tel qu'il est, ce qui ne veut pas dire abdiquer ses propres intérêts, parce que c'est normal que la France ait des intérêts aussi, tout le monde a des intérêts, mais comprendre que maintenant il y a une sorte de diversification économique et géopolitique et culturelle. La Chine a construit ses instituts Confucius, elle en a édifié beaucoup en Afrique, je pense que la Russie va développer la langue russe aussi en Afrique, et donc voilà, il y aura peut-être des instituts Pushkin ou je ne sais, ou Dostoïevski, ou bon, mais C'est ça, la vraie mondialisation, elle est là, tout en étant, et moi je suis, on me qualifie de souverainiste, et pour moi ça n'est pas un gros mot, je défends la souveraineté des peuples, parce que je trouve qu'on n'a pas trouvé finalement encore de meilleur système que pour une nation, quelle qu'elle soit, petite, moyenne, grande en force, que la souveraineté nationale. On n'a pas trouvé mieux. Et tout ce qu'on a essayé de raconter à la place, c'est toujours une aliénation. Il y a toujours un plus fort qui vient aliéner, en fait, soit dans un cadre régional, soit dans un cadre mondial. C'est un masque de l'aliénation, en fait, dès que vous enlevez la souveraineté nationale. Donc je défends la souveraineté nationale de nos amis africains, et je défends la souveraineté nationale de mon pays, la France, aussi dans le cadre européen, et je défends la souveraineté nationale de la Russie, qui est une grande puissance avec laquelle la France a depuis toujours vocation à développer une amitié, et je suis triste, comme beaucoup de Français, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, je tiens à le dire à nos amis russes, ne pensez pas que les peuples européens soient complètement aliénés aux États-Unis. Les politiques et les gouvernements sont aliénés. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans la rue en France. Parce que c'est pas seulement un problème social. C'est un problème de crise de régime. Les gens n'en peuvent plus de ce régime qui les a privés aussi de liberté, parce qu'ils sentent qu'au fond, ces politiques ne travaillent pas pour eux, pour le bien commun. Et c'est ça, au fond, qui dépasse largement le problème, je dirais presque technique, de la réforme des retraites. C'est un problème de fond, de crise de régime. Et c'est une crise de régime larvée aussi dans beaucoup d'autres pays européens.
Vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité de mettre un terme à la France-Afrique. Et l'un des piliers de la France-Afrique, justement, et que les pays africains reprochent beaucoup à la France, c'est le franc CFA, la domination par le franc CFA. Est-ce que vous êtes de l'avis, justement, de beaucoup d'Africains qui demandent à ce que leur pays sorte de ce système-là et qu'ils puissent avoir, dans le cadre de la souveraineté, je crois que vous serez d'accord avec moi, que quand on n'a pas la souveraineté au sein de la monnaie, oui, on n'a aucune souveraineté.
Absolument. Je pense que le CFA est en fait est désuet. Il est d'un autre monde, il n'a plus lieu d'être. Et ce n'est pas comme ça que la France va défendre son intérêt. En plus, on a dû, à l'époque, on l'a sauvé, c'est vrai, face aux Allemands. Donc on l'a lié au trésor français parce que les Allemands ne voulaient pas que supporter auprès de la BCE le coût du CFA. Donc c'est une sorte de vestige. Et moi, je ne crois pas au vestige. Je crois au nouveau système intelligent, adapté au monde et qui permette de défendre intelligemment l'influence de la France. Donc c'est évident que ce système est condamné. C'est évident que les Africains vont en sortir. Par contre, il faut réinventer nos relations. Et vous avez dit que j'étais un adversaire de la France-Afrique. Oui, je ne suis pas un adversaire de la politique africaine de la France. Hein. Entendons-nous bien, on est bien d'accord. Mais je suis un adversaire de la France-Afrique parce que derrière la France-Afrique, il y a aussi toutes les magouilles, la corruption de politiques qui, en fait, sont venues alimenter leur propre denier en France pour faire de la politique. Donc tout ça est très, très malsain et ça explose à la figure de la France. Il faut une refondation complète. Et peut-être que, d'ailleurs, le caillou, entre guillemets russe dans la chaussure francophone française, va faire du bien. J'espère que... Moi, je pars toujours du principe que ce sont les difficultés qui permettent les remises en cause positives. C'est-à-dire se remettre en cause et réinventer un système qui fonctionne.
On va passer maintenant au continent chinois. On a Emmanuel Macron qui est arrivé en Chine avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et si vous voulez, le voyage de ces deux personnes-là est un peu... est assez curieux, puisqu'en fait, Emmanuel Macron, lui, de son côté, souhaite réactiver des liens économiques avec la Chine, alors que dans le même temps, on a Ursula von der Leyen qui a une politique qui est beaucoup plus dure vis-à-vis de Pékin. Et si vous voulez, comment le président français compte s'en sortir dans ces conditions ?
Alors d'abord, vous avez dit, et c'était diplomatique de votre part, c'est assez étrange. Moi, je dirais que c'est presque drôle. Vous savez pourquoi c'est drôle ? Parce qu'au fond, souvenez-vous, au départ, la Chine a essayé de faire une médiation. Elle a proposé sur la question ukrainienne de jouer un rôle, compte tenu de la qualité de ses relations avec... Et puis, en Europe, on lui riait au nez. Non, mais tout ça, vous êtes bien gentil, mais soit c'est une affaire, on va régler ça. Vous savez, ça va être rapidement mené, cette affaire. Bon, et maintenant, ils sont paniqués, tout simplement, parce qu'en fait, il n'y a pas de solution pour l'Ukraine. Je pense que, je suis même convaincu que la présidence française, que la chancelière allemande savent que le camp de l'Ouest ne peut pas gagner en Ukraine. C'est juste pas possible. Donc, c'est à la fois drôle et pathétique. C'est pathétique pour la France et pour l'Allemagne, sur un plan politique. Je pense qu'il faut... on a besoin de gouvernants forts qui s'émancipent une bonne fois pour toutes de Washington et qui disent les choses. Voilà, c'est quoi l'intérêt de l'Europe maintenant ? On fait quoi pour les Européens ? Pour la paix et pour l'Europe ? Et à ce moment-là, les choses changeront. Mais tant que ce ne sera pas ça, moi, je n'ai pas de solution miracle. Je ne suis qu'un simple citoyen français, observateur, et j'essaie de réfléchir sur une situation qui est malheureusement inquiétante. Mmh. Inquiétante. Dramatique et inquiétante. Inquiétante parce que moi, je me méfie des jusqu'au boutistes. Et pour avoir travaillé aussi sur les fondations historiques des États-Unis, le messianisme originel de ce pays, les mouvements religieux, je me méfie des gens qui ont une histoire courte et qui ont fait irruption dans l'histoire de civilisations millénaires, anciennes, qui ont du temps, de la sagesse, et qui viennent pour dire on transforme le monde et on vous promet une société meilleure. Je me méfie beaucoup de ces gens-là. C'est mon côté très conservateur. Je me méfie des gens qui vous proposent le grand soir, parce que c'est ça les États-Unis. C'est un pays qui a fait irruption dans l'histoire et qui est en train d'expliquer à la Russie, qui a connu dans son histoire des revers, mais qui a survécu, qui a toujours traversé tout ça, avec des souffrances inouïes. Mais la Russie, personne ne pourra la casser. Elle peut être abîmée, elle peut être affaiblie, elle peut traverser des crises économiques, des difficultés, mais son histoire est là, et ça c'est simplement le constat, son histoire est là pour prouver qu'elle elle a une capacité de résilience, alors que les États-Unis n'ont pas prouvé ça. Les États-Unis ont une histoire courte et ils n'ont connu que l'ascension. Et à mon avis, ils sont à la fin de l'ascension, avec une chute brutale possible. Survivront-ils ? Je ne sais pas. En tout cas, ils ne l'ont pas prouvé. Ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Ça, c'est un point important. Moi, j'essaie toujours d'avoir une analyse de l'histoire dans le temps long.
Et par rapport à ce que vous venez de dire maintenant, il y a le président russe qui a signé un décret donc instituant la nouvelle doctrine des affaires étrangères du pays. Qu'en pensez-vous avec toute la nouvelle philosophie, la réorientation vers l'Afrique, vers l'Est de l'Asie, mais aussi l'accent qui est mis sur la nécessité que les relations internationales soient régies par le droit international, pas par le droit de la force, et qui malheureusement, comme d'habitude, a été interprété dans les médias occidentaux comme, un signal fort de la Russie qui a envie d'anéantir l'Occident, ainsi de suite.
Alors, d'abord, je pense que la Russie, encore une fois, elle l'avait montré à de nombreuses reprises, la Russie cherchait une bonne entente et une bonne relation avec l'Europe. Elle demandait, dès 1990... une architecture de sécurité avec l'Europe. Elle a été trahie sur ça, on lui a fait des fausses promesses. Et donc la Russie, tout simplement, face à la nouvelle situation, s'adapte. Donc elle regarde dans quelle direction elle peut travailler. Et comme c'est un pays dont la géographie même et l'histoire même n'est pas qu'européen, mais eurasiatique, elle a la capacité de se projeter vers l'Est, vers l'Asie, vers le monde indien, le monde chinois, mais aussi vers la Chine et l'Amérique latine, parce qu'elle a une tradition aussi de projection mondiale. Donc la Russie, à défaut de pouvoir faire ce qu'elle aurait souhaité, c'est-à-dire approfondir sa relation avec l'Europe, pas seulement énergétique, sa relation industrielle. Moi, je me souviens de l'époque où il y a eu même, on a failli, il ne faut pas l'oublier, en France, vendre le Mistral développer des synergies communes en matière de défense, ce qui est évidemment, vous vous souvenez, des pression qu'il y a eu, et les Américains ont tué dans l'œuf, ça. Ils ont tué dans l'œuf. Mais il y avait un début de coopération industrielle, même militaire, en matière de défense possible. Et la Russie voulait développer tout ça. Ça n'est plus possible. Dont acte. Elle prend acte de... C'est du pragmatisme. Donc elle développe une nouvelle doctrine, très pragmatique, multipolaire, effectivement. Deuxièmement, s'agissant du deuxième volet, vous dites effectivement, là aussi, quand même, il faut se souvenir que ce sont les États-Unis qui ont envahi l'Irak en 2003 pour faire du regime change, du changement de régime.
Et qu'ils ont justifié comme une question de sécurité nationale. Drôle de.
Oui, c'est quand même assez.
À 6000 km ou 7000 km.
Fort
en disant à la Russie, à l'Ukraine.
Fort de café, comme on dit. Voilà. Non, c'est évidemment... Non, je pense que la Russie, bien sûr, toute sa tradition diplomatique le montre, est attachée au droit international, mais elle est aussi attachée, c'est normal, à sa sécurité immédiate et dans sa sphère d'influence et de sécurité, son environnement proche. Et à partir du moment où il y a une progression agressive, elle prend des mesures, ça c'est évident. Alors, moi, je pense qu'on va traverser, pendant les années à venir, une phase qui ne sera pas très agréable pour les gens qui sont attachés au droit international, à la diplomatie, c'est-à-dire une phase où c'est les rapports de force. Et j'espère pas la guerre, mais les rapports de force. C'est-à-dire, on est dans la dissuasion mutuelle et c'est la force. Donc, avec un affaiblissement de l'ONU, qui est un outil qui malheureusement est maintenant essoufflé, qui est probablement plus adapté au monde d'aujourd'hui. Donc, il faudra réinventer des outils diplomatiques, des outils de dialogue multilatéral, c'est sûr. L'histoire, c'est un balancier. Il y a des moments où on montre les muscles, où la force s'exprime, et puis il y a des moments où on revient sur des mécanismes de négociation. Mais il ne faut pas se leurrer. Pour les années à venir, maintenant, vu la situation, on est parti pour un rapport de force assez brutal.
On vous remercie, Monsieur Choprad.
Merci à vous.
Passionnant et entretien et riche en informations. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Ça nous a fait énormément plaisir de vous avoir. Moi, j'avoue que je suis même surpris parce que ce que je vois sur vous dans les médias français, on dirait que c'est. On appréhendait peut-être que nous allions recevoir un monstre, mais finalement. Je suis vraiment ravi et agréablement surpris de faire votre connaissance et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Ça sera vraiment avec un énorme plaisir.
Merci de votre accueil et bon courage à vous. Merci.
Merci beaucoup, le plaisir était partagé.
C'était Aymeric Choprad, géopolitologue français et ex-député européen. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis.
Et moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très rapidement sur l'antenne de Maliba FM.
Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai aussi très bientôt pour une autre émission de L'Afrique en marche. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.